Le journal vous est présenté par Guillaume Fariol.
Bonsoir. Écrivaine, professeure, première ministre, madame la maire, l'Académie française vote pour la féminisation des noms de métiers. Changement radical pour les immortels, restés longtemps hostiles à cette idée. Alors qu'est-ce que ça change? Nous posons la question au linguiste Bernard Cerchiglini, l'invité de ce journal. En Israël, des poursuites judiciaires engagées contre le premier ministre Benjamin Netanyahou, soupçonné de corruption, coup dur en pleine campagne des législatives. Retour à Washington, pas vraiment victorieux pour Donald Trump. Le président est rentré chez lui après l'échec du sommet de Hanoï. Deux jours de rencontre avec Kim Jong-un et aucune action concrète décidée. Parole à la défense au procès de Mehdi Nemmouche à Bruxelles. L'avocat du terroriste présumé joue la carte du complot pour défendre son client. Petite révolution cet après-midi sous la coupole de l'Académie française. Les immortels gardiens de la langue de Molière ont dit oui à la féminisation des noms de métiers. Ils ont adopté à une large majorité un rapport sur le sujet. La fin d'un tabou pour les académiciens. Longtemps, ils n'ont pas voulu entendre parler d'autrice, de sapeuse-pompière ou d'ingénieur avec un E à la fin. Fiona Mogadam.
Depuis sa création, l'Académie française s'est toujours montrée opposée à féminiser les noms de métiers et de fonctions, préférant dire par exemple un écrivain ou un professeur qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Comme l'explique la commission chargée du rapport sur la féminisation à l'Académie, en ce début du XXIe siècle, la France connaît une évolution rapide et générale de la place qu'occupent les femmes dans la société, des métiers auxquels elles accèdent, sans que l'appellation réponde à cette situation nouvelle. Alors pour s'adapter à son époque, l'Académie ne voit désormais aucun obstacle de principe à cette féminisation des noms. Mais que faire quand il existe plusieurs mots au féminin? Par exemple, pour auteur, faut-il dire auteureux ou autrice? Les linguistes diront que le vrai mot, celui qui était d'usage autrefois, est autrice. L'Académie française, elle, ne se prononce pas. D'ailleurs, elle ne souhaite pas établir de liste exhaustive, jugeant la tâche insurmontable. C'est donc à l'usage qu'il faudra se référer.
Et pour aller plus loin sur ce sujet, nous sommes en ligne avec Bernard Cerchiglini. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes linguiste, professeur à l'université Paris 7. Alors cette décision de l'Académie française, qu'est-ce que ça change? Les Français n'ont pas attendu l'Académie pour mettre un E à la fin d'auteur s'ils en avaient envie.
Mais bien sûr, dans les faits, ça ne change rien. En France, dans la conversation, dans la presse, dans la langue administrative ou technique, on féminise depuis déjà de nombreuses années. Sauf à l'Académie française. Et donc le changement est symbolique. C'est-à-dire que l'instance de normalisation, de prescription, enfin, a rejoint l'usage.
Et donc symbolique, quelles conséquences sur notre société? Ça a une portée tout de même?
Oui, parce que l'Académie française dit le droit en matière de langue. Et donc, certains féminisaient dans une certaine inquiétude. A-t-on bien le droit? Eh bien oui, c'est normal de féminiser comme on l'a fait depuis longtemps au Québec, en Belgique, en Suisse. Et oui. Malgré une opposition farouche, très décidée de l'Académie française pendant plus de 30 ans.
Oui, parce que vous le dites, la France, elle était en retard sur ce sujet.
Très en retard, la France était isolée au sein de la francophonie. Ce phénomène, j'insiste, est francophone. Il montre la vitalité, le dynamisme de la langue et aussi la capacité des locutrices et des locuteurs, car on peut être un locuteur et favorable à la féminisation, à se saisir de la langue et inscrire un mouvement social.
Alors la France en retard, à quel point vous avez notamment parlé du Québec, où là, la féminisation des noms de métiers, ça fait très longtemps?
Oui, elle date à peu près de la Révolution tranquille, de la fin des années 70, et le mouvement s'est propagé, et quand en France, en 1984, on a fait une première tentative timide de féminiser, l'Académie française s'est violemment opposée.
Ça veut dire?
Elle l'a obligée à maintenir un masculin.
Pourquoi? Est-ce qu'elle est un peu réac, l'Académie française? C'est ça que vous voulez dire?
Non, elle est conservatrice par principe. Hein. Je crois que les raisons sont nombreuses. Il y a eu une certaine misogynie de la part des ténors de l'Académie à l'époque, comme Maurice Druon, malheureusement. Hein. Mais plutôt, j'y verrais une crise d'identité. L'Académie s'est rendue compte que le français était mondial. Ça devrait être une joie pour elle. Ça a été aussi un peu un chagrin parce qu'elle ne pouvait plus régenter cette langue mondiale et qui lui échappait. Le président de la République a dit le 20 mars dernier, le français s'est au fond émancipé de la France. Et il s'est aussi un peu émancipé de l'Académie française qui a mis plus de 30 ans à résoudre cette crise d'identité. Je crois que maintenant, elle est ouverte à la variété mondiale et sa décision d'aujourd'hui le montre.
Alors que devrait faire l'Académie pour être plus en phase peut-être avec son temps, se réformer ?
Bon, bah écoutez, accepter qu'il y ait d'autres normes en francophonie, qu'il y ait une variété, elle devrait aussi reprendre son dictionnaire. Heureusement, elle passe au numérique, tant mieux, car le dictionnaire qu'elle a commencé à publié depuis 1986, qui en est la lettre S, n'est pas du tout féminisé, pas du tout. On voit encore ministre non masculin. Dans l'article, dire une ministre est une grave faute. Donc le dictionnaire non encore publié est déjà à refondre.
Certains diront que certaines formules ne sont pas vraiment élégantes. Sapeur-pompière par exemple, qu'est-ce que vous leur répondez ?
Ben, je réponds que le mot est morphologiquement impeccable, sapé, sapeur, sapeuse, pompier, pompière, qu'on n'est pas habitué au terme, donc il peut sembler bizarre, voire graveleux entre nous, mais je dis simplement que sur le site de la fonction publique où l'on voit la liste des concours sont ouverts pour recruter des sapeurs-pompiers, des sapeuses-pompières. C'est comme ça. Donc, c'est une profession qui existe. On recrute des fonctionnaires pour cela.
Et en même temps, on l'a entendu, hein, Fiona Mogadam nous l'a dit à l'instant, l'Académie ne se prononce pas totalement pour cette féminisation. Elle laisse le choix de ne pas, elle ne va pas édicter de règles strictes. Elle reste un peu timide sur le sujet.
Mais disons que, avec sagesse, elle laisse l'usage évoluer. Et il évolue vite. Quand, il y a quelques années, personnellement, pour procureur, professeur, ingénieur, je changeais simplement l'article. Et puis est arrivé ce suffixe EURE du Québec, qui se lit, mais qui ne s'entend pas, une professeure, une ingénieure, j'ai été sensible et je l'ai adopté. Donc vous voyez, on a plusieurs possibilités. Donc un auteur, une auteure, une auteure avec un E, une autrice. Ne passons pas d'un purisme à un autre, ne corsentons pas la langue féminisée, laissons-la respirer.
Merci Bernard Cerchiglini, je rappelle que vous êtes linguiste et professeur sans E à la fin à l'université Paris 7. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dénonce une chasse aux sorcières. Réaction après l'ouverture de poursuites contre lui par le procureur général israélien. Poursuites dans le cadre de plusieurs affaires de corruption. Ça tombe mal pour le chef du gouvernement en pleine campagne pour les élections législatives. Il brigue un quatrième mandat consécutif. Prochaine étape pour Benjamin Netanyahou, une audition chez le procureur Étienne Monin.
Oui, il a lancé les poursuites judiciaires, c'est le premier acte. Le Premier ministre peut encore tenter d'éviter la mise en examen. La procédure prévoit une audience en défense, mais elle devrait avoir lieu d'ici quelques mois. L'effet des affaires s'installe donc dans la campagne. On peut même dire que c'est le véritable coup d'envoi de cette campagne. Le Premier ministre est visé par 3 affaires. Dans la première, il est soupçonné d'avoir reçu des cadeaux de luxe. Dans la deuxième, il est accusé d'avoir essayé de s'arranger avec un grand patron de presse pour polir son image. Et dans la troisième, il risque des poursuite pour corruption, soupçonné d'avoir utilisé sa position pour favoriser un ami patron d'un grand groupe de communication. L'effet pourrait être désastreux. Le Premier ministre était déjà talonné dans les sondages par la formation d'une nouvelle coalition. Les affaires pourraient pousser ses électeurs à vouloir lâcher un homme qui a totalement envahi l'espace politique en Israël ces dernières années. Mais le Premier ministre n'est pas tenu de démissionner tant qu'il n'est pas condamné. Les premiers partenaires de sa coalition ont déjà apporté leur soutien et la stratégie de victimisation contre les élites de gauche qu'il utilise depuis des mois pourrait cristalliser l'électorat de droite qui avait manifesté son soutien il y a un an quand la police s'était prononcée pour ses poursuites.
Étienne Monin à Jérusalem pour France Culture. Tous les journalistes arrêtés ce matin en Algérie sont libres. Ils sont restés plusieurs heures derrière les barreaux, interpellés pendant une manifestation contre la censure. Selon ces journalistes, l'exécutif algérien tente d'empêcher la presse de couvrir les manifestations contre le régime. Depuis une semaine, des milliers d'Algériens protestent contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat. L'opposition sénégalaise rejette les résultats de l'élection présidentielle publiée aujourd'hui. Macky Macky Sall, chef d'État sortant, est réélu dès le premier tour avec 58% des voix. Malgré ces protestations, les quatre candidats perdants ne déposeront aucun recours devant le Conseil constitutionnel du pays. Retour difficile à Washington pour Donald Trump. Le président rentre de deux jours de sommet au Vietnam avec son homologue nord-coréen Kim Jong-un. Sommet raté, aucune avancée concrète, notamment sur la dénucléarisation de Pyongyang. À cela, il faut ajouter l'audition explosive hier de Michael Cohen devant une commission d'enquête de la Chambre des représentants. L'ex-avocat de Donald Trump a étrillé son ancien patron, Loïc Lory.
Donald Trump avait quitté Washington avec une victoire en poche, celle de ses négociations commerciales avec la Chine. Il revient aujourd'hui les mains vides. Le président, pourtant, avait promis une décision sage de son ami Kim Jong-un. Il ne fait finalement pas mieux que ses prédécesseurs. Son image de négociateur toujours victorieux en prend un coup. Et pire, selon certains, il se sera mis, lui, le leader de la première puissance mondiale au niveau d'un dictateur. Résultat bien maigre pour celui qui rêvait d'un prix Nobel. Avec cet échec international, Donald Trump surtout manque de détourner l'attention de ce qui se passe à Washington, et ce retour au réel sera d'abord un retour aux affaires. L'audition exceptionnelle de son ex-avocat Michael Cohen agite le Capitole. Cet ancien très proche du président a accablé le milliardaire, décrit comme un raciste, un escroc et un tricheur. Et si son témoignage manque de preuves, il remet au centre de l'attention la pléiade d'affaires que traîne Donald Trump depuis deux ans.
Tout de même, Donald Trump peut se consoler avec les bons chiffres de la croissance aux États-Unis, plus 2,9% l'an dernier, au plus haut depuis 2015, tout près des 3% fixés par la Maison-Blanche. Notre économie n'a jamais été meilleure, commente le président américain. Le Conseil de sécurité de l'ONU réunit en ce moment pour parler de la crise au Venezuela. Une résolution des États-Unis vient d'être rejetée par la Chine et la Russie. Les deux pays ont déposé leur veto. Le texte appelait à des élections présidentielles libres et des livraisons d'aide humanitaire au Venezuela. Après cette semaine, le procès de Mehdi Nemmouche à Bruxelles entre dans sa dernière ligne droite. Aujourd'hui, plaidoirie des avocats du djihadiste soupçonné de la tuerie du musée juif de Bruxelles. C'était en 2014. Antoine Marette, envoyé spécial à Bruxelles, a suivi l'audience pour France Culture.
À défaut de révélations promises pour faire basculer le procès, Maître Courtois tente de semer le doute chez les jurés. Il déroule sa version parallèle sur ce qu'il s'est passé le 24 mai 2014, qu'il argumente avec ce qu'il qualifie de troublante coïncidence. Non, ce 24 mai, il n'y a eu ni attentat contre la Belgique, ni attentat antisémite. La preuve, dans sa revendication vidéo, le tueur ne mentionne pas le caractère antisémite de son acte. Pour l'avocat, ce sont des personnes bien précises qui ont été visées lors de cette tuerie, les époux Riva, qui ont été présentés comme de simples touristes israéliens, était en fait membre du Mossad. L'avocat ressort un PV d'un commissaire de Bruxelles qui explique « L'identité des victimes ne peut être communiquée à nos services ». La conspiration saute aux yeux de l'avocat. On a d'abord voulu cacher l'identité du couple Riva avant de cacher leurs fonctions. Dans cette plaidoirie complotiste, on accorde aussi beaucoup d'importance à ce témoin qui affirme que deux hommes sont entrés dans un commerce en face du musée quelques minutes avant l'attentat. Ils avaient un accent étranger et ont posé des questions bizarres. Ça ne peut pas être une coïncidence. Il s'agit pour l'avocat de guetteurs, des guetteurs qui ont donné le signal pour que le tueur surgisse, exécute. Et pour Maître Courtois, ce tueur ne peut pas être Mehdi Nemmouche. La preuve, mon client s'est fait serrer comme une merde après avoir tenté de braquer une épicerie de quartier. Et après, on me dit que c'est le même type qui arrive à mener une exécution puis disparaître dans les rues de Bruxelles.
Le verdict de ce procès est attendu la semaine prochaine. En France, la métropole Aix-Marseille-Provence vote pour un permis de louer obligatoire dans le quartier de Noailles, au centre de la cité phocéenne. Décision 3 mois et demi après l'effondrement de 2 immeubles de la rue d'Aubagne. Le drame avait fait 8 morts. La mesure entrera en vigueur en octobre. Les propriétaires devront désormais demander la visite d'un technicien avant de pouvoir louer leur appartement. Il vérifiera que les normes sont respectées. Ce droit de louer est déjà mis en place dans certaines villes, notamment en Seine-Saint-Denis. Vendu 46 millions d'euros, le parti Les Républicains vient de céder son siège de la rue de Vaugirard dans le 15e arrondissement de Paris. De quoi éponger en partie seulement la dette de LR, mais pas de déménagement pour autant. Le nouveau propriétaire, un fonds d'épargne allemand, va louer les locaux aux Républicains. Il y a 4 mois, le PS a lui aussi cédé son siège historique rue de Solferino, également pour faire des économies après la déroute de la présidentielle. La pollution atmosphérique encore sur la France. La circulation différenciée est maintenue demain à Lyon et Villeurbanne. Les véhicules les plus polluants restent au garage. La préfecture note tout de même une franche amélioration de la qualité de l'air dans le ciel. Encore la météo pour demain. De la pluie sur un quart nord-est de la France. Quelques nuages sur la pointe bretonne. Ailleurs, c'est encore du soleil. Les températures, en revanche, continuent de chuter. Il fera 9 à Lille, 12 à Brest et à Strasbourg, comptez 13 à Paris. La maximale, ce sera pour Perpignan avec 18 degrés. Il est 22h15, vous écoutez France Culture, vous avez bien raison. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Brice Garcia.